RIFT, connu pour être le berceau de l'humanité,
la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du RIFT africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le RIFT est africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
RIFT, c'est tout de suite sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.
Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Derat et je suis chercheure en histoire au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'Éthiopie médiévale. J'emploie cette périodisation pour désigner une époque qui correspond assez bien au Moyen-Âge en Occident, c'est-à-dire entre le 7e et le 13e siècle. L'histoire, c'est l'une des sciences du passé qui tente de reconstituer les sociétés du passé et leurs évolutions dans leur dimension politique, sociale, économique, religieuse. Pour ce faire, l'histoire s'appuie sur des documents, qu'il s'agisse d'écrits, chroniques historiques, documents de la pratique comme des donations, des correspondances, des déclarations de victoire, des vies de saints, ou de traces matérielles, telles que des monuments, peintures et sculptures, bibliothèques de manuscrits. S'agissant de l'Éthiopie, aux époques antérieures au XIIIe siècle, l'une des difficultés consiste dans le fait que les traces écrites sont très peu nombreuses, alors qu'elles le sont beaucoup plus pour la période allant jusqu'au VIIe siècle. Et cela reprend après le XIIIe siècle. Ce trou d'air dans la documentation ne s'explique pas très bien. Est-ce qu'il y eut des destructions au XVIe siècle, comme certains le pensent, parce qu'il y a eu à cette période un djihad islamique contre le royaume chrétien d'Éthiopie? Oui, mais comment expliquer qu'on ait conservé des textes des XIVe et XVe siècles et pas ceux des périodes antérieures? Est-ce qu'il y eut une censure au XIVe et XVe siècle liée au changement dynastique et on aurait supprimé tout ce qui était antérieur à cette nouvelle dynastie? Rien n'est tout à fait sûr de ce point de vue-là. Et puis, il faut compter sur le fait qu'on a des difficultés à identifier des documents anciens dans les manuscrits éthiopiens. On sait encore peu de choses sur la forme de l'écriture en Éthiopie et son évolution, c'est-à-dire la paléographie. Dans tous les cas, cette rareté impose de croiser les données historiques avec l'archéologie et de travailler main dans la main avec les archéologues. C'est ce à quoi je m'emploie depuis une vingtaine d'années. L'une des questions sur lesquelles je travaille concerne la période qui s'ouvre avec le déclin d'un royaume chrétien au VIIe siècle, le royaume d'Aksum. Ce déclin intervient alors que des transformations religieuses de très grande envergure sont à l'œuvre. L'Éthiopie est en voie de christianisation depuis le IVe siècle, mais au VIIe siècle, quelle part de la population est devenue chrétienne? Nous ne le savons pas. À compter du VIIe siècle également, l'émergence de l'islam de l'autre côté de la mer Rouge ouvra la voie à l'islamisation en Éthiopie. Par conséquent, alors que notre documentation se referme, des changements majeurs s'opèrent dans la région. Et au XIIe, XIIIe siècle, on voit réapparaître dans la documentation écrite un royaume chrétien puissant et des communautés musulmanes également dynamiques sur les hauts plateaux éthiopiens. Et nous ne savons presque rien de ceux qui n'ont pas choisi de devenir chrétiens ou musulmans. Pour répondre à ces questions, je travaille avec une équipe d'archéologues, historiens de l'art, géomorphologues, liturgistes, tailleurs de pierre, notamment sur le site de la Libella, un ensemble d'églises rupestres entièrement creusées dans la roche que l'on attribue au roi la Libella au début du XIIIe siècle. Ce site abrite à la fois des bibliothèques de manuscrits, des monuments architecturaux témoignant d'investissements importants, certains entièrement peints et sculptés à l'intérieur, et des vestiges archéologiques que nous fouillons depuis 2009. Il s'agit par ces recherches de comprendre dans quel contexte émerge ce site qui marque une forte empreinte royale et chrétienne dans la région. Qu'est-ce qui précédait cette installation en termes de société, religion, pouvoir, et comment ensuite, dans ces lieux, les choses ont évolué. Cela nous a permis de mettre en évidence la présence d'une société qui n'était sans doute pas entièrement christianisée au XIIIe siècle et qui avait comme culture de creuser dans la roche de vastes salles souterraines dont les usages nous échappent encore, mais avaient peut-être une vocation religieuse. Alors, quel rapport avec le RIFT est-africain? les hauts plateaux éthiopiens résultent de l'activité volcanique associée au système du Rift. Or, ce sont sur ces hauts plateaux que j'étudie les sociétés éthiopiennes entre le 7e et le 13e siècle. Toutefois, l'échelle du Rift et même le rôle de cette structure géologique dans le passé des sociétés n'est a priori pas une dimension que je prends en compte. Les temps géologiques et les dimensions naturelles du Rift excèdent largement les territoires que j'étudie. Pourtant, pour comprendre les évolutions sur le temps long dans la région, le croisement avec les disciplines qui étudient les paléo-environnements et les paléoclimats peut apporter des résultats et des questionnements intéressants. Pour les hauts plateaux éthiopiens, concernant les deux derniers millénaires, on observe notamment deux phénomènes qui ont été mis en lien avec des changements environnementaux. Le déclin d'Axum, que certains historiens et archéologues ont lié à une aridification et à un épuisement des sols, incapable de supporter la croissance démocratique du royaume, est l'un de ces événements. Mais les recherches les plus récentes en paléo-environnement tendent à montrer que cela n'est pas le cas pour les régions voisines de la ville d'Axum. C'est la ville d'Axum qui décline et non pas le reste du territoire. Il faut donc revoir ces questions. Un autre exemple est constitué par ce que l'on appelle les migrations Oromo. Les populations Oromo occupent aujourd'hui une grande partie du nord du Kenya et de l'Éthiopie centrale. Il semble qu'au XVIe siècle, leur territoire était plus restreint, situé au nord du Kenya et au sud de l'Éthiopie. Certains voient dans les migrations des Oromo au XVIe siècle, la recherche de pâturage poussée par des transformations environnementales. Mais est-ce qu'on peut le démontrer? Ces arguments, avancés parfois à la va-vite par les historiens, méritent d'être vérifiés. Le dialogue avec les autres disciplines, telles que celles qui travaillent sur le paléoclimat et le paléo-environnement, permettent de poser les questions différemment. Car la grande difficulté dans ces cas-là, c'est de mettre en musique des évolutions dont les échelles de temps sont très différentes. Comment saisir des phénomènes sociaux en lien avec des transformations environnementales? On voit bien la complexité des phénomènes qui ne peuvent sans doute pas trouver de réponse simple. La question de l'impact des changements environnementaux sur les sociétés est très actuelle. La tester dans le cadre du GDR Rift et tenter de trouver des solutions pour y répondre est ce qui me motive à participer à cette aventure scientifique.
Rift, connu pour être le berceau de l'humanité,
la chronique scientifique interdisciplinaire qui va vous parler du Rift africain.
Sujet d'étude passionnant pour les scientifiques qui travaillent sur le mouvement des plaques tectoniques.
Le Rift est africain est une grande structure géologique que l'on trouve dans la partie est de l'Afrique et qui se poursuit en direction du sud jusqu'au Mozambique, qui nous montre comment naissent les océans.
C'était Rift sur Divergence FM.
Et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore.